Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Retour avec Anne, merci Christelle. Retour avec Anne qui est infirmière, qui habite dans l'Aveyron et qui, peut-être comme beaucoup de gens d'ailleurs, vous dites vous êtes partagée. Mais la difficulté, c'est qu'il faut à un moment trancher.
Je suis bien d'accord qu'il faut trancher à un moment donné. J'étais dans le département des Alpes-Maritimes la semaine passée. Un département confiné, j'ai pas senti le confinement dans ce département.
Bah, il y en a bon. Pas, c'est logique.
A priori, ils ont quand même baissé un petit peu par rapport à leur taux de contamination. Mmh. Voilà. Maintenant, moi, je suis dans une région où on n'est pas tellement atteint encore. Je dis bien encore, parce que l'épidémie est en train de gagner du terrain. Donc, maintenant, en tant qu'infirmière et en tant que personnel de santé, on ne doit pas et on ne devrait jamais avoir à choisir. Jamais.
Ah, c'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Choisir un patient à qui on va donner l'accès aux soins pour le guérir par rapport à un autre, on ne devrait pas. Et aujourd'hui, c'est remis à nouveau en question dans les régions et dans les hôpitaux où ils sont arrivés à saturation.
Oui, alors c'est plus... je ne veux pas dire que... chaque mot a un sens. Le mot de tri qui a été employé dans cette fameuse tribune du journal du dimanche de la PHP. Il est remis en question le mot de tri, puisqu'on va plus sur de la déprogrammation que sur du tri. Alors effectivement, la déprogrammation, ça peut être ennuyeux et même grave, mais ce n'est pas la même chose que le tri. Lorsqu'on emploie le mot tri, les gens ont le sentiment que deux personnes arrivent ensemble à la PHP ou dans un hôpital parisien. Les deux ont le Covid et on va en choisir un plutôt que l'autre. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
C'est passé lors de la première vague. Il faut être honnête, ça s'est passé lors de la première vague. Il y a beaucoup de personnel. Moi, j'ai pas été dans ce cas-là, mais j'ai croisé des infirmières qui ont été dans cette situation, qui ont vécu cette situation et qui étaient encore 6 mois, 7 mois après profondément choquées à se demander si elles allaient continuer leur métier ou pas, leur profession. Mm. Pour vous dire, elles étaient en remise en question de leur profession. Et par rapport à ça, on ne doit pas revenir à ça. Maintenant, déprogrammer des interventions importantes pour des personnes qui les attendent depuis déjà des mois, voire un an, on peut plus se permettre de déprogrammer parce que ce sont des personnes de toute façon qui sont en sursis.
Vous avez parfaitement raison. Et vous avez parfaitement raison. Alors c'est vrai que cette fameuse tribune, elle a fait tellement réagir tout le week-end que même Martin Hirsch, ce matin, a écrit à tous les soignants. Il a écrit un mail ce matin à 11h, vers 11h. Il dit ceci, Martin Hirsch, samedi soir nous avons organisé une longue et large réunion de travail associant des établissements publics et privés d'Île-de-France sur ce contexte de surcrise et nous assurer que nous mobilisions bien l'ensemble des forces, l'ensemble des leviers, l'ensemble des ressources au service de l'ensemble des patients. Voilà ce qu'il écrit ce matin. Et certains ont analysé ce mail comme une manière de rétropédaler par rapport à cette tribune qui avait été écrite par les médecins de la PHP. Anne, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours avec vous.
De dire
vous,
que bah, voilà, ça va quand même tenir. C'est ça le message que veut faire passer Martin Hirsch, qui dirige la PHP.
Ça concerne peut-être la PHP, mais ça concerne quand même tous les hôpitaux de France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vivre dans la déprogrammation, c'est mettre aussi des personnes psychologiquement parlant en grande difficulté. Et ça, il faut le voir, il faut le comprendre.
Vous avez raison, mais vous avez raison, et c'est pour ça que c'est extrêmement délicat, parce que vous avez entendu le journal également, le décrochage scolaire des jeunes, la santé mentale qui est en difficulté, les psychiatres qui expliquent qu'il y a des dépressions, qu'il y a des gosses qui arrivent de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont dans un stade très difficile. Donc voilà, c'est tout le monde
la
a sur
mentale,
la table ces arguments.
Tous les jours, monsieur. Pascal, je la vois tous les jours, la santé mentale. Je vois des personnes autour de moi qui, effectivement, tombent en dépression, des personnes qui s'alcoolisent, c'est très important, qui étaient fragiles avant, mais qui s'alcoolisent parce qu'elles ne sortent plus, elles n'osent plus sortir, et par contre, elles s'alcoolisent. Voilà, donc les troubles chez les jeunes aussi, oui. Le harcèlement chez les jeunes est revenu, je dirais, est en hausse, mais il est en hausse parce que les jeunes vivent mal aussi cette situation.
Et c'est pourquoi d'ailleurs cette situation n'est pas simple, complexe et réclame de la nuance sans doute, Anne, et que toute position tranchée est compliquée, même si à un moment, faut bien décider. Et ça, c'est ce que
il
doit faire
décider.
Emmanuel Macron.
Maintenant, faut pas oublier une chose. Faut que Monsieur Macron ait bien en tête qu'il est président de la République, d'accord. Il est le président de tous les Français, d'accord. Mais il n'est pas médecin, il n'est pas scientifique. Et aujourd'hui, il faut qu'il écoute les scientifiques.
Quel scientifique ? Les médecins ne sont pas des scientifiques. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est ça la difficulté. C'est compliqué, en fait, Anne. Pardonnez-moi, je peux même vous choquer, peut-être.
L'ensemble du corps médical sont des gens scientifiques, sont des gens qui...
Oui, mais tout le monde ne dit pas la même chose. Les hospitaliers disent pas la même chose que les médecins de ville. Moi, j'ai beaucoup de médecins de ville qui ne sont pas sur la ligne de l'hôpital. Donc, faut entendre tout le monde. Bon, il n'y a pas unanimité de la parole médicale.
Ah, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord parce qu'il y a effectivement pas, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Il y a aussi les paramètres économiques et les paramètres sociaux.
Oui, alors ça, d'accord. C'est encore autre chose. Mais même les médecins entre eux ne sont pas d'accord. Anne, on marque une première pause. Je salue Greg Caranoni parce qu'aujourd'hui il fait très beau. Et je le dis, j'ai deux choses dont on pourrait parler quand même. On pourrait parler du temps. Oui. Parce que est-ce que ça vous fait. Mais un peu en joie parce que j'ai l'impression de répéter souvent la même émission ces derniers temps. Donc si vous avez envie de nous parler du temps. Eh ben, appelez-nous. Et
du temps qui fait, pas du temps qui passe.
Bah, du temps, appelez-nous comme vous voulez. Mais le temps qui fait, moi j'aime bien ça, si vous êtes à la plage, pourquoi? Et puis, est-ce que ça a été dur ce matin?
À la plage déjà?
Mais il y a des gens qui. Mais je peux vous dire que moi j'ai eu des amis, ils sont sur la plage en ce moment.
Ça fait deux infos, vous avez des amis et ils sont sur la plage.
Voilà. Et la deuxième chose, à Noirmoutier, ils sont sur la plage de l'Herbaudière, parce qu'il va faire un temps magnifique. Et la deuxième chose, est-ce que ça a été dur ce matin? Parce que c'est l'heure d'été.
Le changement d'heure.
Ah oui, non mais
ça a été difficile pour vous ?
Ah oui, non mais comme tous les gens qui se lèvent tôt, c'est du jet lag quasiment. Donc appelez-nous pour témoigner ce que ça a été rude ce matin. Il est 13h08, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Greg Caradoni ironisait sur les Noirmoutrins, puisque ce sont les habitants de Noirmoutier qui seraient à la plage. Eh bien, les messages tombent. C'est Hélène Champy sur les réseaux sociaux qui dit « Oui, nous sommes là et nous vous écoutons !»
J'ironisais sur les personnes potentiellement à la plage, pas les Noirmoutins précisément.
Pas les Noirmoutins, mais Noirmoutrins.
Noirmoutrins.
On va créer une polémique là.
Et puis n'écrivez jamais Noirmoutier avec un S, ce qui est horripilant. Noirmoutier, c'est sans S à la fin.
Et Limoges ?
Limoges à Annès.
Merci Laurent pour Tessier, ces infos pour briller. Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Les infos pour briller en
au
société,
dîner
en
ou sur la plage, vous choisissez. La France peut-elle échapper à un confinement strict ? Emmanuel Macron doit-il écouter les médecins ? Faut-il fermer les écoles, les collèges, les lycées ? Peut-on encore l'éviter ? Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, était l'invité de RTL Midi.
Nous demandons des moyens financiers, matériels, humains pour que l'école puisse continuer, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit en présence. Et aujourd'hui, cet argent des enfants vient à manquer. Même pire, le ministre a rendu 200 millions d'euros sur son budget à son collègue du budget, 200 millions qui auraient été bien nécessaires à l'école pour faire face à cela. Donc si on met l'école sous quarantaine, soyons clairs, ça va être compliqué.
Rien ne va changer cette semaine, prédit Gabriel sur nos réseaux sociaux. Jupiter est trop orgueilleux, lance Catherine. Les écoles vont se fermer toutes seules, hein, vous verrez, nous dit Barbara. Bon là, ça suffit, s'énerve Sylvain. Soit on ferme tout, soit on ouvre tout et advienne que pourra. Ça ne changerait pas grand-chose quand on voit les mesurettes de ces derniers jours. Un an que ça dure, soupire Patrick, et on continue de parler de confinement strict. Reconfinez-nous une bonne fois pour toutes, demande Véronique. Mettons le pays, allez à l'arrêt un mois et vaccinons jour et nuit. Après, il faut avoir les doses suffisantes.
Mais ce serait intéressant si c'était efficace, mais paraît-il, ça ne l'est pas à 100%. Je rappelle que le niveau d'incidence est moins important que dans le reste de la population. Dans les écoles, chez les plus jeunes, le niveau d'incidence est plus bas. Je rappelle également que on a laissé ouvertes les écoles dans la deuxième vague. Et effectivement, le problème, c'est le brassage, c'est ce qu'on appelle le mixing. Voilà pourquoi il faut encourager sans doute le télétravail et arrêter les soirées, puisque les jeunes se contaminent beaucoup dans les soirées. Mais ça, il faudrait leur expliquer de ne pas sortir, et c'est compliqué. Bonjour Bernard.
Bonjour Pascal.
Et merci, vous habitez les Alpes de Haute-Provence. Votre avis ?
Alors moi, mon avis, alors justement, j'ai écouté l'infirmière là, qui parlait, et ça peut être que bouleversant ce qu'elle dit, hein, de toute façon, voilà. Moi, par contre, si vous voulez, je crois, je pense qu'il ne, il faut, si on va surconfiner tout le pays, ce serait vraiment dans l'extrême limite et qu'il ne faut pas le faire. C'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec, avec notre président. Je rejoins ce que vous disiez. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que le reconfinement améliorera la situation. Parce que on a quand même les gestes barrières, on a eu des gens vaccinés, on a plein de choses. Et finalement, fort est de constater que ça continue quand même. Et je ne pense pas qu'en reconfinant tout le pays, si vous voulez, avec ce qu'on a connu lors de la première vague, ça va créer énormément de problèmes. Je pense qu'il faut essayer de tenir. Et pour ça, j'ai une question à poser, que je vous pose à vous ou que je pose aux autorités. Pourquoi on ne pense pas aux retraités ? Les retraités des hôpitaux, par exemple, les retraités médecins, les retraités infirmières, etc., etc., ou même on parlait de l'éducation nationale, pourquoi on ne leur demanderait pas, sous base de volontariat, de revenir travailler ? Parce qu'après tout, on confine, on prend des mesures fantastiques, enfin, etc., je cherche mon mot. Pourquoi on ne ferait pas ça ? Je ne dis pas qu'il faut les obliger. Mais voyez, moi j'ai 70 ans, je ne suis pas du tout dans le milieu médical, mais je pourrais faire, par exemple, je ne sais pas moi, ambulancier, brancardier, des choses comme ça. Moi, si on me demandait, j'irais gratuitement. Parce qu'en ce moment, on a dit c'est la guerre. Bah, c'est la guerre, on se mobilise, si vous voulez. Et ce serait une façon, parce que, excusez-moi, juste un truc, c'est que le problème, il est quoi ? C'est qu'on a une épidémie, je regardais encore, il y a 35 000 personnes encore testées positives ici, ce jour-ci. Mais si vous voulez, le vrai problème, c'est l'engorgement des hôpitaux.
C'est le seul. Enfin, c'est pas le seul, d'ailleurs, mais c'est le numéro un. Parce que, évidemment, voilà.
J'aimerais bien avoir un plan de gouvernement. Parce que, bon, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Pas pour tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que quand on n'aura plus d'épidémie, espérons-le, j'espère qu'on va réfléchir et qu'on va renforcer les hôpitaux. Alors, j'ai entendu dire que les lits, c'est pas trop le problème, mais le problème est le personnel. Voilà pourquoi, mon épouse, c'est MML qui m'a suggéré, je veux dire, pourquoi on va pas rechercher les retraités, si vous voulez ? Et soit en les payant, soit en les payant pas, ça dépend. Ça, c'est pas le problème, quoi. Si vous voulez, s'il faut les payer, on les paye. Mais vous voyez, je suis sûr que, comme ça, on aurait plus de personnel dans tous les hôpitaux, des personnels compétents, parce que bon, quelqu'un qui est en retraite depuis 4-5 ans, il n'a pas quand même perdu. Et puis, il serait peut-être pas en première ligne, mais pourrait aider. Et à ce moment-là, ça éviterait, parce que les lits, on dit, on peut en trouver des lits. On m'a dit, ça c'est pas le problème. Voilà.
On peut rouvrir l'Hôtel Dieu, par exemple, ou le Val-de-Loire.
Oui, et puis les hôpitaux privés, qu'est-ce qu'on fait avec les hôpitaux privés ?
Ça fonctionne plutôt bien, a priori, c'est ce que nous
dit, en tout cas. On va réquisitionner des hôtels, j'en sais rien. Mais si vous voulez, plutôt que de prendre une mesure hyper radicale, tout confiné, allez, on sort plus de chez soi, on se cache, on est tous terrés avec tout le problème psychologique, les problèmes économiques, bon, on va pas revenir là-dessus. Pourquoi on prendrait pas des mesures comme ça ? On dit, allez, hop, tous les retraités, vous y retournez, on renforce les hôpitaux, on y va, on y va.
La proposition est entendue, Bernard, et elle sera peut-être débattue. On pourra interroger, effectivement, un des responsables de l'État, en l'occurrence, ou du gouvernement, ou de la médecine de la santé. Et cette proposition, pourquoi pas, effectivement, elle est souvent imaginée, et a priori, je ne crois pas qu'on soit allé vers les retraités. Il est 13h16, on va marquer une nouvelle pause. Et puis, vous pouvez nous appeler sur tous les sujets du jour. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le sport, évidemment, avec ce week-end sportif. Vous avez peut-être vu la victoire de l'équipe de France. N'hésitez pas, au 32-10, c'est lundi. Et on attend vos appels.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Et Bernard qui est toujours là.
Pascal, pardonnez-moi, oui, c'est une info de la plus haute importance. Ma mère et ma sœur sont également sur une plage dans le sud de la France.
Bah, vous voyez.
Les petites plages étriquées, vous savez que vous n'aimez pas trop.
Non, mais
la Méditerranée.
Mais c'est la vie. Tant mieux, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des nouvelles de votre famille à faire passer à l'antenne.
Carrie Lerouet, pour être extrêmement précis.
Il n'y a pas de souci. Bernard, qui est dans les Alpes de Haute-Provence, nous disait une chose juste. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à des gens à la retraite ? Eh bien, pendant que vous parliez, il y a une personne qui m'envoie un message et qui me dit, c'est une infirmière. Et elle me dit un exemple de la connerie, pardonnez du terme, des politiques qui nous gouvernent actuellement. Ils demandent aux infirmières comme moi à la retraite de retravailler pour le renfort Covid-19. J'ai repris du service depuis 4 mois. Maintenant, je suis prévenu que si je dépasse une certaine somme mensuelle, on arrêtera de me payer ma retraite. Alors que l'on manque cruellement de personnel pour les services et les vaccinations, on marche sur la tête. Et c'est une infirmière levalloisienne qui m'envoie ce texte-là. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, ah bah oui. Bernard. Et parce oui, que effectivement, c'est les technos qui gouvernent.
Ah non, mais en fait, on va pas faire le truc là-dessus. Mais les énarques qui nous gouvernent, des fois, on se demande s'ils savent ce que c'est que la vie. Enfin bon, bref.
Mais, oui.
Mais si vous voulez, moi, je rebondis sur ce que dit cette dame. Moi, puisque on met plein de fric dans les industries, dans les magasins, parce qu'il faut ils travaillent plus et tout ça. Écoutez, pourquoi on dirait vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous êtes en retraite, vous venez travailler, on va vous payer grassement, ce sera exonéré d'impôts, vous continuerez, et puis peut-être que ça les freinit. Enfin, moi, je pense que normalement
c'est une bonne idée effectivement, Bernard, et on l'a développé, et pourquoi pas. Avec effectivement, il ne faut pas que les retraites de ceux qui viennent travailler soient amputées, ce qui serait quand même le comble. Nathalie, bonjour, vous habitez Grenoble.
Oui, bonjour Pascal.
Alors, confinement, pas confinement?
Mais quel constat d'échec, un an après d'en arriver à ce qu'on risque de subir la même chose qu'il y a pile un an, quoi. Il y a un an avec...
Je pense que ça ne se passera pas. Maintenant, je peux me tromper. Je n'imagine pas,
parce
même
si... Parce qu'il y a un an, quand on nous a enfermés, Pascal, c'était parce qu'on nous disait on ne connaît pas ce virus, on n'a pas de masque, on n'a pas de lit, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Comment on pourrait justifier ça un an après la mise en place des gestes barrières, la fermeture des secteurs entiers, restaurants, bars, salles de sport, culture, les écoles en 50-50, les vaccins, et on nous refermerait?
Bah écoutez,
c'est un constat d'échec politique et même pour les médecins, de toute façon, finalement.
Je suis d'accord avec vous, Nathalie, mais il faut voir ces jeux de pouvoir qui existent parfois et qui paraissent assez étonnants. Mais je ne suis pas sûr que, je suis même certain que le président n'est pas sur cette ligne. Le président Macron, et à lire hier dans le journal du dimanche, les confidences qu'il donnait ne vont pas dans ce sens. Donc on fera tout, sans doute, pour éviter un reconfinement, d'autant que certains disent que la courbe, depuis 24 heures ou 48 heures, dans les entrées à l'hôpital, fléchit. Donc c'est important de le dire, parce que, tout le monde dit, je veux pas dire que tout le monde dit n'importe quoi, c'est pas ça, mais faut manier tous ces chiffres avec beaucoup de prudence. Par exemple, quand j'entends l'épidémie explose, faut faire attention, parce qu'elle n'explose pas, le taux de positivité reste globalement dans la même zone. Taux de positivité, c'est le nombre de personnes contaminées sur 100 personnes lorsqu'on fait des tests. Bon, il était à 7,80 ou 7,90, il est à 8,07. Donc, il est dans une fourchette proche.
Et plus il y a des tests, plus il y a des cas positifs, plus
alors
le
ça,
taux...
C'est effectivement, voilà. Plus il y a de tests, plus il y a de
cas. C'est mathématique. Hein,
ça, c'est sûr.
Tout à fait.
Bon, quel est votre avis à vous? Puisque c'est ça qui m'importe, vous êtes assistante maternelle.
Moi, par rapport aux écoles, je trouve qu'il y a 3 mois, on stigmatisait les EHPAD et les personnes âgées. C'était un débat sur les plus âgés qu'on sauvait. Et aujourd'hui, on est en train de renvoyer le débat sur l'inverse de la pyramide des âges, c'est-à-dire sur les enfants et l'école. Et ben, comme les personnes âgées, on les a protégées, mais qu'aussi, on a tout fait pour qu'ils retrouvent un semblant de vie parce que c'était nécessaire, et ben oui, l'école, elle est nécessaire aux enfants et aux jeunes aujourd'hui, quoi. Ce n'est pas que l'école, c'est un lien social, c'est les extraire du milieu familial dans lequel ils sont peut-être en insécurité, c'est un repas à la cantine pour 1 euro ou peu qu'ils n'ont pas dans leur foyer, ce n'est pas que l'école.
Bah écoutez, j'entends effectivement ce que vous dites. J'entends ce que vous dites.
Et comme on a voulu protéger les plus anciens, eh ben, pensons aussi au lien social des plus jeunes et aux enfants, quoi.
Merci beaucoup Nathalie, et là encore faut penser, vous avez raison, aux enfants, mais à ceux qui sont en dépression, aux jeunes et parfois aux jeunes adolescents, mais on a l'impression de se répéter, c'est ça qui est tout à fait singulier dans cette épidémie. Marc est là aussi, bonjour Marc, vous êtes enseignant, alors votre avis nous intéresse de cette fois-ci, vous êtes le premier enseignant qui intervient depuis 13 heures, vous êtes dans une école, dans un lycée, dans un collège?
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Non, moi je suis enseignant particulier, donc je vois des élèves d'un petit peu toutes les classes, de tous les niveaux, de tous les horizons, ce qui me permet en fait d'avoir un panel sur le niveau des élèves en fait. Et je trouve que le niveau des élèves est catastrophique, et ça, personne ne s'en émeut, personne ne s'en inquiète. On nous dit que tout va bien, que l'école continue, ce qui est faux, puisque moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent que quand ils sont en visio, ça marche pas, le prof n'arrive pas à se connecter, le cours finalement finit par avorter. Et puis les élèves en visio ne comprennent quasiment rien à ce qu'explique le prof. Hein. Je parle des matières scientifiques, parce que moi je traite que les matières scientifiques. C'est une catastrophe. Hein. J'ai beaucoup d'élèves qui sont complètement... il y avait déjà une pente qui était très mauvaise concernant le niveau, mais alors là, je trouve qu'on touche, le fond. Moi, je ne sais pas comment on va faire pour remonter la pente.
Mais la raison...
La raison, c'est que déjà, vous avez eu pendant 3 mois l'an dernier, 3 ou 4 mois, des élèves qui n'ont pas du tout été, qui ne sont pas allés en cours. Et puis, comme je vous dis, les élèves qui sont en visio décrochent complètement. La visio, ça fonctionne pas. Vous avez des profs qui, par exemple, lorsque c'est le moment de la visio, disent aux élèves, oh ben non, je peux pas vous faire cours en visio parce que mes propres enfants sont en visio et moi, j'ai pas assez de sous pour acheter deux ordinateurs. Vous voyez ? Donc, le cours est annulé. Vous avez des élèves, des profs en fac qui refusent de faire cours en visio parce que ça ne les arrange pas. Et puis les élèves, quand vous êtes tout seul devant un écran, bon, en classe, vous êtes quand même obligé un petit peu de vous tenir à carreau, enfin entre guillemets, vous êtes obligé d'être un peu attentif. Quand vous êtes en visio, vous pouvez couper le son, mettre de la musique.
Non, mais c'est sûr. Il est clair que l'attention, la concentration n'est pas la même. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, Marc, là aussi, ça, c'est pour ça que ces sujets... Vous savez, de quelque côté qu'on regarde cette épidémie, on ne pense pas forcément la même chose. Et souvent, c'est une formule qu'on utilise ici, en disant tout le monde a toujours raison de son point de vue. Ben, les enseignants ont raison de leur point de vue, les médecins ont raison de leur point de vue, les élèves ont raison de leur point de vue. C'est ça qui est difficile, parce que la vérité, elle est multiface.
Mais je pense qu'avec cette épidémie, c'est un petit peu comme les médecins réanimateurs. Je pense que sous le couvert de cette épidémie, il y a quelque chose de plus politique chez certains d'entre eux qui essayent de faire avancer leurs idées, qui essayent de peut-être revendiquer plus de choses. Je trouve que ce virus a bon dos, hein, souvent.
Mais merci Marc pour votre avis. Parmi les sujets du jour, Audrey Pulvar, ça nous intéresse, la candidate PS pour le régional en Ile-de-France. Audrey Pulvar a réagi à la récente polémique autour des réunions en non-mixité raciale mises en place par le syndicat étudiant UNEF. Elle estime qu'une personne blanche qui assisterait à une réunion non-mixte pourrait rester spectateur silencieux. Je souris parce que je dis parfois qu'on va tous terminer fous. Mais vous imaginez ce type de polémique il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On n'y aurait pas cru. On imagine aujourd'hui que des Blancs peuvent assister à des réunions où il y a des Noirs, mais ils n'ont pas le droit de parler. Et c'est une responsable politique, ancienne journaliste, Audrey Pulvar, qui dit cela. Dans quel monde vit-on, Monsieur Karanoni? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Dites donc, Pascal, c'est lundi?
Oui.
Il y a du soleil?
Oui. C'est vraiment le cliché, mais vous n'avez pas honte.
Qu'est-ce ça fait
12 millions de fois. Alors, il y a du lundi, il y a du soleil et Claude François.
Ah, le sourire se dessine sur votre visage.
Oui, vous êtes plus joyeux.
Quelle est votre drogue favorite? Le soleil.
Ah, je crois que vous allez dire Jennifer.
Oui.
Non, je me permettrai pas. Mais en revanche, quelle est votre drogue favorite? Le soleil. Laurence Tessier. Laurence Tessier, oui. Le week-end a changé les choses. Allez, Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Les personnes blanches doivent-elles se taire lors des réunions non mixtes? Les propos d'Audrey Pulvar créent la polémique. La candidate PS pour les régionales en Ile-de-France réagissait chez nos confrères de BFM à ces réunions interdites aux Blancs organisées par le syndicat étudiant UNEF. Des moments pour permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Et cette phrase d'Audrey Pulvar agite les réseaux sociaux et une partie du monde politique.
Si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., mais j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux.
On peut lui demander de se taire.
Oui, Je pense que oui.
Réaction ce matin sur RTL de Marlène Schiappa, la ministre en charge de la citoyenneté, était l'invitée d'Alba Ventura.
Il me semble que là, Audrey Pulvar et une partie d'ailleurs de l'UNEF, une partie du Parti Socialiste, une partie de différentes organisations sont à la remorque des idées indigénistes en souhaitant qualifier les personnes en fonction de leur couleur de peau. Donc qu'il y ait des groupes de parole et que des victimes de racisme ou de sexisme s'expriment, oui, c'est important. Mais à aucun moment, on doit demander à quelqu'un de se taire ou de sortir en fonction de sa couleur de peau, quelle que soit la couleur de peau.
Êtes-vous choqué par les propos d'Audrey Pulvar? Les comprenez-vous au contraire? Eh bien, pour Alain, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Toutes les couleurs de peau doivent avoir le droit d'accéder, surtout de s'exprimer dans les réunions publiques. Drôle de vision, réagit Fabrice. Très limite ses propos, rajoute Karine. Et je lui donne en partie raison, lance Benoît. Je ne suis pas sûr de voir de toute façon beaucoup de blancs à des réunions de personnes qui sont victimes de discrimination.
Vous imaginez s'il y avait des réunions de blancs où les noirs n'ont pas le droit de rentrer, ou ils ont le droit de rentrer mais ils n'ont pas le droit de parler? Vous imaginez ce que serait le débat aujourd'hui en France? Parmi les réactions, il y en a une qui est quand même assez étonnante, et ça ne me choque pas profondément, c'est Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui voulait faire agenouiller un jour les policiers, souvenez-vous, après le meurtre de George Floyd. Ça ne me choque pas profondément, a dit Christophe Castaner, et il est quand même le président du groupe de La République En Marche. Donc là, il peut avoir peut-être des petites réactions, parce que je ne suis pas sûr que toute La République En Marche soit sur cette ligne. Cyril est proviseur. Bonjour, vous habitez dans le Loiret.
Bonjour Pascal. Oui, tout à fait.
Merci d'être avec nous. Quelle est votre position sur la possibilité de fermer une école?
En dernier recours, hein, Pascal. En dernier recours, parce que j'entendais votre auditrice tout à l'heure, et je partage son point de vue. L'école, c'est un lien social, c'est... sortir nos élèves pour qu'ils puissent avoir justement ce lien social, rencontrer d'autres élèves et continuer la pédagogie à distance. On en mesure aujourd'hui l'effet pervers, c'est que pour moi l'hybridation, comme on l'appelle dans notre jargon éducation nationale, ça ne dure qu'un temps, ça ne peut être que sur une courte durée. Nous sommes en hybridation depuis le 20 novembre, rendez-vous compte. Et je vois les effets sur mes élèves de terminale, notamment l'impact psychologique. Je crois qu'on est en saturation de ce mode de fonctionnement qui ne peut pas être continué. Alors, parce que l'enseignement, c'est du présentiel, c'est du face-à-face, c'est une interaction entre deux êtres humains, le professeur, l'élève, dans une salle de classe, en interaction. C'est bien ce que je dis, il faut interagir. Voilà.
Hybridation, là, c'est-à-dire que pour un élève de terminale, c'est-à-dire qu'il vient une fois par il vient une semaine sur deux?
Alors nous avions ce système au tout début et on a mesuré que ça n'était pas le meilleur, donc on a réajusté au mois de décembre avec un jour sur deux. Oui. C'était une semaine sur deux et on a réajusté à un jour sur deux pour qu'il y ait une meilleure fréquence de la venue, un autre rythme moins court d'espace entre la rupture de l'école, pour que les élèves soient en contact avec leur enseignant dans la salle de classe et puissent continuer les programmes qui ont été revus et allégés par le ministère, et heureusement, pour se recentrer sur l'essentiel et ne pas trop dévaloriser les diplômes qui vont avoir lieu, puisque nous sommes toujours dans la perspective du bac de philo au mois de juin et du bac de français au mois de juin et du grand oral pour nos élèves de terminale que nous préparons à cette épreuve nouvelle qui est issue de la réforme du bac.
Terrible d'ailleurs pour ces élèves, tant ces classes sont importantes et tant elles restent présentes dans nos vies d'adultes que la vie de terminale, et notamment la classe de philo, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces élèves?
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils aimeraient bien un retour dit à la normale, mais je les comprends.
Eux, ils sont demandeurs. Hein.
Ah oui, ils sont demandeurs, ouais. Nos élèves sont demandeurs, et j'ai de très bons élèves qui moralement, je parle en termes de signaux de dépression, hein, on a alerté la hiérarchie sur ce point, le ministère est au courant, que nos élèves ont ces signaux où ils seraient tentés de décrocher, on les maintient, on les
rassure. La solution Pécresse de fermer ou d'avancer les vacances scolaires de 15 jours et en gros de mettre tout le monde pendant un mois à l'arrêt pour les élèves, bien sûr. Est-ce que ça vous paraît une solution envisageable?
Moi, je dis pourquoi pas. Ça aura moins d'impact que d'un reconfinement sec et une fermeture totale d'établissement. Quand j'ai vu à la reprise du mois de septembre, notamment pour nos élèves de seconde qui n'avaient pas été à l'école, au collège, pendant, enfin, avec les vacances scolaires de l'été, pendant 3 mois, la difficulté de raccrocher à la scolarité, de reprendre un rythme, de se réinvestir, de se réimpliquer, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une solution qu'il faut étudier, envisager pour qu'il y ait le moins d'impact possible de fermeture d'un établissement scolaire.
Voilà. Bah merci pour ce témoignage, merci beaucoup.
Merci Pascal.
Et nouvelle pause, et puis Robin nous attend, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, il y a des magasins non essentiels. Il y a des sujets également non essentiels pour notre émission.
Et la question non essentielle pour Didier Deschamps, Karim Benzema doit-il faire son retour chez les Bleus ? Sujet que nous avions abordé la semaine dernière
et
dans l'émission.
Pourquoi non essentiel et essentiel ? Au contraire, cette
Mais hier, cette en question. Conférence de presse, Pascal, après la victoire 2-0 contre le Kazakhstan, le sélectionneur a été une nouvelle fois questionné sur l'absence de l'attaquant du Real Madrid, cette fois-ci par un journaliste kazakh.
Est-ce que vous allez...
Non. Même ici. Allez, on restera sur les autres questions. Oh oui, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question.
Réponse tout en humour.
Il est drôle, Didier.
Ben oui, voilà. Et puis
il est rigolo.
Et puis l'étude non essentielle du jour. Selon un tabloïd britannique, le prince William a été nommé chauve le plus sexy de la planète.
Vous peut-être.
Bah, je ne sais pas. Des résultats du moteur de recherche Google ont montré que le prince a eu droit au qualificatif sexy au moins 17 millions de fois. Arrivent ensuite Mike Tyson, Jason Statham et un peu plus loin Bruce Willis ou Dwayne Johnson. Prince William, chauve le plus sexy de la planète.
Après vous.
Bah, c'est gentil, hein. C'est un ami.
Robin, bonjour. Robin qui habite Perpignan.
Bonjour.
Bonjour Romain. Vous êtes pour ou contre la fermeture des écoles ?
Alors même si ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle, je suis plutôt pour. Parce que selon moi, c'est le seul moyen de retrouver un continent qui se rapproche le plus du premier.
Vous avez des enfants vous-même ?
Non.
Ah,
mais il y a 3 mois.
Oui, mais j'aime bien poser des questions pour savoir si les gens sont concernés par les mesures qu'ils proposent, en fait. C'est ça qui m'intéresse toujours. Pardonnez-moi, hein, Robin, de le dire comme ça, mais souvent, je demande aux uns et aux autres s'ils sont payés en fin de mois, par exemple, et j'ai remarqué qu'ils regardent l'épidémie d'une manière différente s'il n'y a pas d'argent en fin de mois parce qu'ils sont indépendants ou artisans ou s'ils sont salariés. Et de la même manière, vous, Robin, vous n'avez pas d'enfants. Donc d'abord, je vous le reproche pas, pas d'enfant en âge d'aller à l'école, puisque vous avez 27 ans, vous êtes tout jeune. Mais effectivement, les parents qui ont des enfants, ils voient pas les choses de la même manière que vous.
Alors, si, j'ai un enfant. Hein.
Oui, mais il a 3 mois, donc a priori, sauf s'il est très en avance, a priori, ce qui est toujours possible, a priori, il va pas encore à l'école.
Ah non, il n'y a pas encore à l'école, et je me mets à la place des parents qui ont des enfants plus âgés, effectivement, pour eux, ça doit vraiment être très compliqué de se retrouver confiné avec leur enfant à la maison.
Vous avez mis le haut-parleur, là, Robin, pour parler ou pas ? J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas très bien, non ?
Non, j'ai la bouche collée au téléphone.
Bon, là, c'est pas très, la ligne n'est pas formidable. Bon, en tout cas, vous pensez que c'est la bonne solution, Robin ?
Je pense que c'est la bonne solution, parce que ça nous ferait avoir un confinement qui ressemblerait au premier, et qui avait été le plus efficace en fin de compte.
Bon, ben, en tout cas, merci de ce témoignage. On ne va pas éterniser effectivement notre conversation pour la raison que je vous disais. Mais merci, Robin. Et puis, j'imagine. Alors, à Perpignan, il fait moins beau qu'à Paris. C'est ça qui est paradoxal aujourd'hui. Il fait moins chaud, en tout cas.
C'est vrai. Pourtant, on a un grand ciel bleu ici.
Grand ciel bleu aussi à Paris, mais nous, c'est plutôt l'été. Et vous, c'est encore le printemps. Merci, Robin. On change de sujet.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Alors, comme vous le savez, la candidate du PS pour les régionales en Île-de-France, notre ex-consoeur Audrey Pulvar, a réagi à la récente polémique autour des réunions en non-mixité raciale mises en place par le syndicat étudiant UNEF. Elle estime qu'une personne blanche qui assisterait à une réunion non-mixte pourrait rester spectateur silencieux. Donc elle a dit, à nos confrères de BFM. Nous sommes avec Mohamed qui est enseignant à Nantes. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment sur cette déclaration ?
Alors, mon sentiment, c'est un peu un sentiment de consternation devant le monde médiatique et politique qui tombe sur Audrey Pulvar et sur son argumentation. Alors, je trouve que, oui, dans des groupes de discussion, comme dans des réunions d'alcooliques anonymes, ou des réunions pour les femmes battues, ou des réunions autres d'une autre nature. C'est les personnes concernées par la discrimination qui sont en général concernées par ces réunions. Donc, c'est d'abord eux qui sont là. Si un non-alcoolique se met à parler d'alcoolisme, il ne saura pas quoi dire. Il dira des choses qui, parfois, vont dérouter les discussions, vont changer l'angle d'attaque des discussions. Donc, d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue d'organisation de ce type de réunion, oui, il est possible de ne pas inviter ou de ne pas donner la parole à un certain type de personne. Ici, en l'occurrence, il s'agit de discrimination. Donc, il s'avère qu'on peut ne pas laisser les personnes non discriminées prendre la parole. Mais il ne s'agit pas de les discriminer en soi, puisque c'est une question de méthode de discussion. Et j'aimerais surtout qu'on parle des vraies discriminations. Les discriminations des gens qui, justement, sont invités à ces réunions-là. Discrimination à l'emploi, au logement, à la sécurité. Discrimination à l'accès aux hautes fonctions publiques. Discrimination d'accès à ce qui fait, en fait, le principe d'égalité de notre cher pays.
Et vous, avez ça, le sentiment que, en fonction de la couleur de la peau, en fonction des origines, il y a en France discrimination?
Bien sûr qu'il y a discrimination. Enfin, moi, je suis enseignant. J'ai 45 ans. Avant, j'ai passé des concours pour être enseignant. J'ai déposé mes CV quand j'ai travaillé par ailleurs avant. Et j'ai vécu ça, j'ai vu ça.
Mais vous avez, alors précisément, vous avez le sentiment d'avoir été discriminé et, comment dire, injustement traité?
Oui. J'ai parfois ce sentiment-là, enfin j'ai eu ce sentiment-là.
Mais si, comment est-ce qu'on peut étayer ça? Est-ce que vous avez une preuve ou un fait tangible qui pourrait nous convaincre?
Enfin, je ne sais pas, quand vous passez des concours avec des CV, quand vous connaissez les personnes qui sont retenues, quand vous savez qu'elles ont moins d'expérience que vous, mais qu'elles ont, un profil qui est moins expérimenté, parfois moins diplômé, etc. Vous vous dites qu'il y a un problème.
Mais par exemple, dans quelle fonction ça s'est passé? Parce que là, vous êtes enseignant, donc il y a une... Dans l'administration, dans l'enseignement, les choses sont un peu plus codifiées, par exemple, que dans le privé, où effectivement, on peut embaucher, avec des critères plus souples. Mais là, vous êtes enseignant, vous, par exemple, vous êtes enseignant en lycée, en collège?
Non, à l'université. Donc, j'ai dû passer des concours, de mettre des conférences pour.
Donc, vous avez le CAPES, peut-être?
Non, il faut avoir un doctorat, un troisième cycle, et puis passer des concours.
Bon. Mais ces concours, vous les avez réussis? Ils sont anonymes, ces concours?
Non, pas quand vous passez devant un jury à l'oral, c'est pas anonyme.
Donc, et à l'oral, vous avez le sentiment d'avoir été maltraité, injustement?
Parfois, oui.
Le sentiment, disons-le, parce que j'ai donné votre prénom, vous appelez Mohamed, donc vous êtes d'origine...
Moi, je suis d'origine algérienne.
Disons les choses pour qu'on comprenne. Et vous avez le sentiment, parce que vous vous appelez Mohamed, parce que vous êtes d'origine algérienne, d'avoir été maltraité par un jury, par exemple?
Oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Et puis même, je ne veux pas parler de mon cas personnel.
Mais si, c'est intéressant. Précisément, l'émission, elle est faite pour ça, justement, parce que c'est ça qui est intéressant. Je veux essayer de comprendre, voudrais vraiment, c'est des éléments... qu'on comprenne bien en quoi il y a eu, maltraitance ou discrimination.
C'est mon cas pratique, mais sinon je connais d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas. Vous connaissez très bien l'histoire du CV anonyme. Si ça a été mis en avant et proposé, c'est parce que justement pour éviter ce genre de choses, mais les statistiques sont claires. Il n'y a pas besoin de regarder le cas un par un, mais quand vous regardez la difficulté des jeunes qui habitent dans les banlieues ou ceux qui ont certaines connotations, on sait très bien qu'ils ont des difficultés, trois fois plus de moins de chances d'accéder à des emplois que d'autres.
Oui, vous avez raison, mais qu'ils ont moins de chances d'accéder à des emplois ou à une école parce qu'ils sont moins formés, parce qu'ils sont moins performants du fait du milieu dans lequel ils évoluent, ou est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à ces écoles alors qu'ils auraient le même niveau que les autres? La question est posée, on va tenter d'y répondre peut-être après la pause.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On parle des propos d'Audrey Pulvar. Et je rappelle qu'Audrey Pulvar, elle est candidate PS pour les régions régionales en Île-de-France. Et elle estime qu'une personne blanche qui assisterait à une réunion non mixte pourrait rester spectateur silencieux. On termine avec Mohamed, qui intervenait et qui parlait effectivement qu'il y a discrimination et que finalement, il n'est pas choqué que des personnes qui se sentent discriminées restent entre elles pour évoquer cela, même si... Si vous me permettez, Mohamed, c'est la fin du débat. Hein. C'est-à-dire que c'est étrange. On reste entre soi et le débat n'existe plus.
Non, mais c'est des réunions ponctuelles. Ce n'est pas des réunions qui vont régler tout le problème.
Il s'agit J'entends bien, mais bon, c'est des réunions où quand même on reste dans l'entre-soi.
Oui, si on pense que les gens sont plus libres de dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire par ailleurs, s'il y a un autre profil qui n'est pas celui celui contre qui ils luttent, entre guillemets, enfin je veux dire, ils essayent de libérer la parole. Le but, c'est ça, de ces réunions, c'est de libérer les paroles. Après, ça ne veut pas dire que tout ce qui sera dit sera pris pour argent comptant.
Mais si on entre là-dedans, voilà. On peut aussi considérer que les femmes doivent faire des réunions contre elles, que les hommes doivent faire des réunions contre eux, etc. Vous voyez non. Et puis vous imaginez s'il n'y avait que des blancs qui étaient dans une réunion où les noirs n'aient pas le droit de rentrer. Les réactions en France que cela provoquerait.
Ouais, mais ce n'est pas. Enfin, il faut parler des choses.
Vous trouvez que c'est pas la même chose.
Non, c'est pas pareil. C'est des réunions de discussion dans lesquelles on essaye de libérer la parole. Il ne s'agit pas de réunion de travail. Il ne s'agit pas de réunion de décision. C'est pas une réunion sur un objet qui n'a rien à voir.
Je crois que sur ces points-là, elle est un peu libérée quand même la parole, puisque ça permet à Audrey Pulvar, par exemple, de dire ce qu'elle a dit. Donc. Et vous-même, ce qui m'ennuie dans notre conversation, c'est que je vous ai demandé plusieurs fois précisément dans votre cas personnel en quoi vous avez le sentiment d'être discriminé et vous ne m'avez pas apporté un fait pour qu'on puisse comprendre. Et c'est, si vous me permettez, Mohamed, c'est ce qui m'ennuyait dans notre discussion.
Non, mais c'est pas le sujet de l'appel. Moi, je veux pas parler de mon cas personnel.
Mais si, c'est intéressant plus. Justement parce que pour que chacun comprenne, comment voulez-vous qu'on comprenne si vous dites pas précisément, voilà, moi j'ai été discriminé, voilà ce qui m'est arrivé, c'est injuste et c'est ça qui est intéressant, c'est votre témoignage qui serait fort fort.
Je veux pas être très précis sur mon cas particulier, mais je vous dis par exemple, voilà, pour accéder à un concours, j'ai dû le passer 5 fois dans. Ou 6 fois, mais par persévérance, j'y suis quand même arrivé.
Mais ça, peut arriver, mais est-ce que c'était injuste? C'est ça ma question, Mohamed.
Ben voilà, j'ai regardé le profil des personnes qui ont été prises, leur CV, et le profil des postes qui étaient identifiés, et je sais que j'étais plus qualifié qu'elles.
D'accord.
C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc mais je suis pas le seul dans ce cas-là.
C'est intéressant, voilà. Mohamed. Ben merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup. François est là. François qui habite dans le Nord. Bonjour François.
Et bonjour Pascal.
Nous réagissons au propos d'Audrey Pulvar.
Je réagis. Alors j'entends et je respecte parfaitement les propos que vient de tenir Mohamed, mais je suis absolument atterré des propos qui ont pu être tenus par Audrey Pulvar. C'est le déni d'un débat démocratique. Ça présage du fait que moi, étant mâle blanc hétérosexuel de 56 ans, mes idées soient forcément préconçues. Ça nie complètement l'éducation que j'ai pu recevoir de mes parents, ça nie l'éducation que j'ai pu me donner, et ça nie le travail que j'ai pu faire sur moi-même. Quelque part, on tue le débat démocratique. En poussant ces normes-là à l'excès, on va plus pouvoir se parler, on va plus pouvoir débattre, et encore une fois, à condition que les conditions du débat soient bien réunies, hein, qu'on se respecte, qu'on respecte la parole de chacun, qu'on ne dise pas d'énormité ou d'aberration, mais qu'à un moment, on puisse discuter, débattre, confronter ses points de vue pour faire progresser la chose. Là, on va tuer le débat démocratique et puis, quelque part, on va provoquer le refermement sur soi-même d'une certaine catégorie de la population qui se sentira forcément exclue du débat parce que présumée coupable.
Alors c'est tout à fait particulier, hein. C'est l'UNEF qui est un syndicat qui a une orientation aujourd'hui très à gauche, voire d'extrême gauche, qu'on accuse parfois d'islamo-gauchisme. Il faut rappeler ce qu'est l'islamo-gauchisme, c'est jamais facile à définir, mais c'est une sorte de complaisance, disons-le, de la gauche pour l'islamisme et qui tourne le dos à ses... à sa vision traditionnelle, puisqu'elle était très laïque au départ, cette gauche. François, on va poursuivre la discussion, si vous le voulez, juste après le flash de 14h. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin.
Emmanuel Macron à Créteil cet après-midi, le chef de l'État en déplacement pour rencontrer les opérateurs des plateformes qui contactent ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Pour l'heure, rien n'est décidé sur d'éventuelles restrictions supplémentaires dans les 19 départements les plus touchés par le virus. Depuis ce matin, dans ces lieux, les classes avec un enfant positif sont automatiquement fermées. Dans le même temps, toutes les hypothèses sur l'origine du Covid méritent plus d'études, selon le patron de l'OMS dans un rapport sur les sources de l'épidémie. Le document privilégie l'hypothèse d'une transmission par un animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme et juge très improbable celle d'une fuite d'un laboratoire. Les laboratoires Servier, coupables de tromperie aggravée, est condamné à une amende de 2,7 millions d'euros. Le tribunal de Paris a rendu son jugement dans l'affaire du Mediator. 4 ans de prison avec sursis pour l'ancien bras droit de Jacques Servier. La notion d'escroquerie et ses fondamentales n'est pas retenue. L'Agence nationale de sécurité du médicament écope, elle, de 303 000 euros d'amende. Le plus dur reste à faire pour dégager Liver Given du canal de Suez. C'est ce qu'explique la société mandatée pour aider à déplacer le navire, désormais remis à 80% dans la bonne direction. Le trafic maritime va mettre 3 jours et demi à s'écouler après la fin de l'incident. Pour le moment, on ne sait pas quand la navigation va pouvoir reprendre. Les musées de l'Orangerie et d'Orsay vont aussi porter le nom de Valéry Giscard d'Estaing, annonce du ministère de la Culture en hommage à l'ex-président disparu en décembre. En cyclisme, le Belge Philippe Gilbert forfait pour le Tour des Flandres. Dans un communiqué, il explique prendre une période de repos et parle d'un manque de fraîcheur mental et physique, notamment après sa chute sur le Tour de France l'an dernier. La météo avec un ciel bleu partout en France et à peine un peu de grisaille entre les côtes du Languedoc et de Provence. À noter une tramontane modérée à forte en Roussillon. Les températures de 16 à 26 degrés, 17 à Nice, 20 à Dijon, 22 à Paris et 25 à Bordeaux. Les courses étaient à Saint-Cloud, l'arrivée provisoire du Quintet, 14, 3, 10, 4 et 9. 14h et 2 minutes sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec Pascal Pro.
Merci Hortense, on était avec François qui était, disait-il, complètement désespéré, il appelle dans le Nord. François est toujours là?
Oui, alors pourquoi désespéré? Parce que j'ai connu aussi une époque, moi qui était l'époque des radios libres, où on a refait, alors vous parliez de l'UNEF et de la conception de la laïcité, mais moi je me souviens de débats dans ces radios libres dans les années 80, où on pouvait évoquer ce sujet sans finir à coups de batte de baseball, et moi j'aimerais discuter avec des gens de l'UNEF, de leur faire part de ma conception de la laïcité, qui est peut-être pas la leur, qui est peut-être moins radicale, mais je suis profondément laïque, et pourquoi je serais interdit de débat? Parce que ma conception de la laïcité n'est pas la leur. Sous prétexte que, étant effectivement, comme je le disais tout à l'heure, mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, je suis perverti par ma culture, ma réussite sociale et ma réussite professionnelle. Moi, ça me pose un vrai problème, ça.
Oui, ben je...
Alors qu'on aime débattre. Enfin, ce qui fait le cœur de notre démocratie, ce qui fait le cœur de notre démocratie, c'est le débat, c'est la culture, c'est l'échange culturel, c'est le partage. Quand on discute, on partage, c'est l'arbre à palabre.
Non mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais on est dans un climat aujourd'hui, en fait on est dans un triple climat entre la cancel culture, entre la culture woke, W-A-K-E. C'est quoi la culture woke? C'est de considérer qu'il faut enlever chaque chose du débat qui peut blesser. C'est ça la culture woke. C'est-à-dire que je vais me moquer par exemple des chauves, ah, attention. Là,
vous tombez bien, je suis chauve, Pascal.
Je peux blesser un chauve, donc je m'auto-censure. Donc c'est, me semble-t-il, oublier notre culture, oublier notre nature, notre légèreté, l'esprit français. La culture woke, Sacha Guitry n'écrit plus une ligne.
C'est oublier des proches. J'entendais une interview sur votre antenne ce matin dans le prochain Astérix où le scénariste se dit je fais attention à ce que j'écris parce que je ne veux blesser personne. Je n'agis plus aujourd'hui comme j'agissais il y a 30 ans. Je n'utilise pas les mêmes propos, les mêmes plaisanteries pour faire attention. Mais à un moment, on doit pouvoir rire de tout, peut-être pas avec tout le monde, mais à partir du moment où on fait ça sans méchanceté aucune. Ça sous-entend
mais ça
cette
peut
culture
être méchant d'ailleurs, parce que c'est drôle parfois ce qui est méchant. On a le droit d'être méchant.
Est-ce que vous allez pouvoir dire, vous parliez des chauves justement, j'en suis un, mais si je suis dans un état d'esprit comme aujourd'hui, je vais trouver ça très drôle, et puis demain matin, parce que je me serais un peu mal levé, je vais trouver ça assez désespérant. Alors qu'en fait, c'est la même plaisanterie, donc là aussi, regardons comment on le prend, mettons des guillemets, relativisons tout ça, le débat est quelque chose d'important, mais pas grave, quoi, quelque part.
Et la dérision et l'humour. Harakiri, c'est un journal bête et méchant. Ça pouvait faire rire, et de temps en temps, moi, ça me faisait rire.
avec cette culture, ce woke culture, plus d'arakiri, plus d'école et salade,
mais plus rien.
Plus de Charlie Hebdo, plus rien, quoi. Plus de canard.
Je suis d'accord.
On touche aux fondamentaux de notre démocratie. Et ça m'interpelle. Parce
et de l'esprit français.
Et complètement.
Et ben on est d'accord, François.
Alors que c'est ce qui fait notre richesse. Voilà. Mais encore une fois, acceptons que les autres, ce que je dis là, c'est que j'accepte de débattre avec des gens qui ne partagent pas mon point de vue, qui sont très pro woke culture ou cancel culture. Eh bien, venez-en débattre avec moi, mais autorisez-moi à parler, s'il vous plaît.
Moi, ce qui me frappe chez tous ces gens, c'est leur intolérance et leur absence d'humour. Et effectivement, il faut toujours se méfier des gens qui n'ont pas d'humour. Ça, c'est un signe. Les dictateurs, ils n'ont pas beaucoup d'humour. Ça, c'est un signe qu'on peut revoir en permanence. Et les gens qui s'expriment aujourd'hui dans le débat public, ils sont dépourvus de légèreté et d'humour, et c'est dommage. Ce qui n'est pas le cas de Greg Karanoni.
Vous dites Sacha Guitry n'écrirait plus une ligne, mais il n'est pas mort ?
Oui, mais il n'écrirait plus une ligne. Vous avez compris ce que ça veut dire. Ça,
oui,
c'est drôle.
De l'humour, voilà.
C'est de l'humour. Mais Sacha Guitry, par exemple, il a passé son temps à moquer des femmes, mais c'était du deuxième degré. Il les aimait, il en a eu 5.
Oh non, mon Dieu.
Est-ce que vous connaissez les 5 femmes de Sacha Guitry?
Non.
Charlotte Lizès, Jacqueline Delubac.
Il en manque trois.
Vous avez Geneviève de Sérieville. Vous avez Lana Marconi. Vous savez, Lana Marconi, il avait dit « Vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs ».
Il commençait toujours ses phrases de la même façon.
Et j'ai cité Jacqueline Delubac,
oui.
Yvonne Printemps,
voilà,
qui était la femme
Printemps.
de ben ça c'est le jour, qui était la femme de Pierre Frenet.
Au
je
printemps,
m'appelle Pierre Frenet. Vous vous souvenez de Pierre Frenet? Il parlait comme ça. Je m'appelle Pierre Frenet.
Très bien.
C'est une imitation de Pierre Frenet.
C'est magique.
Je m'appelle Pierre Frenet. À tout de suite.
Pascal, au printemps, c'est Pâques arrive.
Pâques arrive, c'est le 4 avril. Ah oui, alors il y a des cadeaux, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement. Et du coup, aujourd'hui, Isabelle, que se passe-t-il cette semaine sur l'antenne?
Cette semaine sur RTL, à l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent un assortiment d'un kilo et demi de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un coffret de lapin en guimauve, enrobé de chocolat, de petits œufs garnis et de chocolat Jeff de Bruges spécial Pâques. De quoi faire plaisir et vous régaler.
C'est pas très bon pour le summer body, mais...
Ah oui, 1,5 kg, c'est beaucoup. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Allez, Françoise, maintenant, tout ça, toujours sur l'affaire Pulvar. Bonjour, Françoise.
Oui, bonjour, Pascal. Bien contente de vous parler. Parce que ça s'appelle souvent.
Et vous avez du mal à nous avoir?
Bah, vous avoir pas trop, mais à passer à l'antenne, parfois, parce que j'ai un peu des idées radicales, donc je pense que ça rentre pas trop.
Ah non, alors dites pas ça, parce que on pourrait imaginer qu'on choisit les interlocuteurs en fonction de ce qu'ils vont dire, et la réponse n'est pas exacte.
Oui, je sais, mais...
La liberté d'expression est totale.
Je sais, justement, parlons-en. Liberté d'expression. Oui, alors ça a un peu glissé, j'imagine, parce que je viens d'entendre le précédent auditeur s'exprimer sur l'humour. Et l'humour, c'était en gros, c'était ça dont il parlait.
L'humour, c'est de la dérision, c'est du deuxième degré, voilà. C'est ce qui fait notre ADN, qui constitue notre ADN.
Bien sûr. Mais moi, j'étais au départ, hein, j'ai été sélectionnée par rapport aux propos d'Audrey Pulvar qui me...
Bien sûr.
Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est la part d'une journaliste et qui, en plus, va devenir peut-être une femme politique.
Ben elle l'est déjà, elle n'est plus journaliste et elle a quitté le métier.
Oui, mais bon, mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Je suis comme vous, moi, on vit chez les fous. Hein. Quand même, interdire des réunions à des gens qui ne sont pas concernés par la réunion, c'est quoi? Où est le débat? Si on interdit la réunion aux gens de se réunir alors qu'ils ne sont pas tous d'accord, ça ne sert plus à rien.
Bah écoutez, c'est ce que vous dites s'entend et c'est pourquoi vous prenez la parole.
Mais oui, parce que enfin, franchement, des réunions réservées aux femmes noires qui ont des problèmes de harcèlement, toutes les femmes ont des problèmes, enfin pas toutes, mais bon, c'est pas réservé aux femmes noires le harcèlement, il y a aussi des femmes blanches qui sont harcelées. Et alors là, moi je comprends plus là, je suis plus dans la France qui devrait être, quoi. Parce que franchement, si on n'a plus de liberté d'expression, qu'est-ce qu'on devient?
C'était intéressant hier, parce que dans le journal du dimanche, il y avait un sondage qui était proposé, sondage IFOP fiducial, et on interrogeait les uns et les autres, et aujourd'hui on ne se sent plus chez soi comme avant. Eh bien 66% des Français interrogés étaient d'accord avec cette formule, ce que vous êtes en train de dire, on ne se sent plus chez soi comme avant. Alors je ne sais pas exactement ce que veut dire cette phrase, mais moi je l'interprète comme on a perdu notre esprit de légèreté, notre humour, notre ADN,
notre façon de vivre.
Voilà, c'est ça, comme ça que je l'interprète.
Je n'y vois pas d'autre connotation. Non, notamment
le débat, effectivement, qui devient radical, j'ai envie de dire, et piégé par les minorités actives.
Alors ça, c'est ça qui est terrible. C'est que ces gens qui mettent la zizanie, ils sont ultra minoritaires. Alors, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas quoi s'exprimer, on est bien d'accord.
Bien sûr, mais c'est vrai, vous avez raison.
Ça ne doit pas consister dans la majeure partie du débat, quoi.
Mais les médias sont un peu responsables, et puis nous, peut-être aussi, puisque c'est quand même au départ une réunion de l'UNEF qui est un syndicat ultra minoritaire dans les universités. Donc, on est vraiment à la marge des problèmes de société. Uh-huh. Et ça fait 15 jours juste qu'on en parle. Vous voyez, on pourrait aussi dire, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est aussi vrai, on pourrait avoir cette position éditoriale. Ça n'a aucune importance.
Elle est sur une réputation, moi, quand j'étais...
Oui, mais l'UNEF, je suis d'accord avec vous.
Non, mais je veux dire, rien que le nom UNEF, ça évoque sûrement pour plein de générations, dont la mienne, un syndicat qui était... c'était pas un syndicat, d'ailleurs. C'est pas vraiment un syndicat.
Si, c'est un syndicat d'étudiants. Mais qui représente aujourd'hui, qui pèse assez peu.
Voilà.
Le nombre de personnes qui ont voté pour l'UNEF en France ne justifie pas qu'on en parle depuis 15 jours comme ça.
Bah oui, mais c'est valable aussi un peu pour tous les syndicats d'enseignants, je voudrais pas dire.
Bon, en tout cas, je trouve qu'on a, pour tout vous dire, on a une petite part de responsabilité, nous aussi, les médias. Françoise, merci. Maria est là. Bonjour Maria.
Oui.
Vous êtes assistante sociale. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Votre avis.
Bonjour. Alors, écoutez, moi, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup étonnée et je pense qu'on s'éloigne d'ailleurs un peu du sujet parce que on parlait d'humour, on parlait du harcèlement des femmes blanches, que seules les femmes noires ne subissaient pas le harcèlement. Mais là, on ne parle pas tant de ça. Cette réunion de l'UNEF concerne des personnes qui ont subi de la discrimination ou du racisme dans leur vie. Donc, je pense que les premiers concernés sont donc des personnes de couleur, mates, métissées. Voilà, ce sont les premières personnes concernées. Mais ce type de réunion, elle existe depuis toujours, finalement, j'ai envie de dire, les groupes de parole qui, donc du coup, réunissent des personnes concernées par un sujet, il y en a, mais pléthore, je pourrais vous en donner, mais un nombre d'exemples inimaginables.
C'est-à-dire
par exemple, un groupe de parole pour des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, un groupe de parole sur des personnes qui ont subi une maladie, des groupes de parole pour les enfants qui sont confrontés à la maladie d'un parent. Enfin, il y a tout type de groupes de parole qui réunissent que les personnes concernées. Donc, ça ne nous viendrait pas à l'idée, pour exemple, d'inviter un homme auteur de violences conjugales à un groupe de parole réunissant des femmes victimes de violences conjugales. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans le sens où là, on donne la parole à ceux qui sont concernés.
Oui, mais là où c'est différent, c'est de considérer l'homme blanc comme un ennemi. Là, dans le cas de ce que vous dites, je peux l'entendre, mais ça veut donc dire qu'on considérerait l'homme blanc comme un ennemi.
Alors non, parce qu'il ne me semble pas qu'ils aient dit l'homme blanc est un ennemi. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'acceptent pas des personnes blanches dans ce type de réunion, puisque ce n'est pas eux qui sont concernés par les discriminations et le racisme. À aucun moment, on entend le mot ennemi. Pour en revenir à ce que Mme Pulvar a dit, alors certes, ça pouvait être un peu maladroit, mais je peux l'entendre dans le sens où, dans ce genre de réunion, dans ce genre de groupe de parole, on va donner la parole aux personnes concernées. Et je pense que c'est très compliqué pour une personne qui n'a jamais subi de racisme, jamais subi de discrimination, de pouvoir comprendre à quel point c'est important de se retrouver avec des personnes qui ont vécu ça et avec qui on peut en parler, avec qui on peut en échanger, parce que finalement c'est des poids, je pense, que ces personnes portent, qui peuvent être plus ou moins quotidiens en fonction des personnes à qui on est entouré. Ça peut être au travail, ça peut être dans la rue, ça peut être ailleurs, mais je trouve ça très important, au contraire, qu'on puisse continuer à faire ce type de groupe de parole, quel que soit finalement le sujet, pour qu'on puisse avoir cet espace où on se sent en sécurité, pas jugé, et au-delà de pouvoir vraiment dire ce qu'on ressent dans ces moments où ça a été compliqué de dire encore aujourd'hui dans le bus ou encore aujourd'hui dans le travail. Enfin, c'est important de pouvoir créer ces espaces sécurisés, mais je vous dis vraiment, quel que soit le sujet, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ça fait tant polémique, puisque c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui existe encore, et dans beaucoup de sphères finalement sociales, dans beaucoup de terrains de travail, dans beaucoup de choses, en fait, ça existe, ce type de groupe, et dont je ne comprends réellement pas en quoi cela est si choquant qu'on puisse se dire Ben oui, sur un groupe de parole sur la discrimination et le racisme, on va inviter des personnes qui sont concernées par ça.
Bah merci Maria. Merci, la discussion est intéressante parce qu'on a eu des points de vue assez différents sur ce sujet. On va continuer encore avec Jean-Pierre et Théo, j'espère qu'on aura le temps. À tout de suite, on n'a pas passé beaucoup de musique, cher Greg, aujourd'hui. Et nous aimons le lundi. Le vendredi, il y a de la musique parce qu'on part en vacances et le lundi, on aime en avoir parce que ça nous remet un petit peu en ambiance parce que c'est lundi.
Je peux en sortir une ou deux pour un petit peu
soleil,
plus tard. Lequel?
Je ne sais pas.
Anna Karina?
Ouais, mais c'est toujours les mêmes chansons.
Bah, écrivez une chanson, composez.
Sous le soleil.
Bah oui.
Je pense sur le printemps, essayez. Par exemple, le Sacre du printemps de Stravinsky, ça, ce serait original.
Très bien.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Sacre du Stravinsky. Sacre du printemps. Jean-Pierre ou Théo ?
Oui, Jean-Pierre.
Allez, bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Monsieur Pascal Pro. J'ai le plaisir de m'entretenir avec vous.
Eh ben, c'est
et
gentil.
Et aussi à la télévision, on va pas citer, à la chaîne, vous n'aimez pas ça.
Mais c'est pas que j'aime pas, c'est que là on est sur RTL.
Oui, oui. Alors oui, pour revenir sur les propos de Madame Audrey Pulvar, bon, je vais être simple, je dis, enfin, tout simplement, je trouve ça ridicule. Je pense que c'est une forme de ségrégation inversée, tout simplement. Alors, j'ai une question sous forme de boutade quand même, parce que on dit que les réunions faites par des blancs seraient interdites aux noirs, des réunions faites par des noirs interdites aux blancs. Mais alors, je me pose la question, les métis, ils vont être accueillis dans quel type de réunion, les personnes
métis ? Oh, je vous engage à pas aller sur ce terrain, cher Jean-Pierre, parce qu'aujourd'hui, ce genre d'ironie ou de blague peut être mal perçu.
Je sais, mais quand même, on peut poser la question. Enfin, si vous voulez, pour aller au-delà de ces propos polémiques, je pense, pour faire une synthèse et voir plus loin, c'est vrai, comme disait le sage, quand le sage monte la lune, le sot voit le bout du doigt. On est en train de payer, je pense, depuis toutes ces décennies passées, ce qu'on a voulu nous injecter régulièrement d'une manière idéologique, qu'une société multiraciale, multiculturelle, multiethnique était une chance, un top, le top des tops pour une richesse pour la France. Et ce cocktail, moi je dirais tout simplement que malheureusement ce cocktail culturel porté au nu par certains devient une sorte de cocktail Molotov qui nous éclate en pleine figure. Je pense, si vous voulez, que les différences existent de par la planète, sur toutes les latitudes. Il y a un continent asiatique, il y a un continent africain, il y a... Et bref. Mais je pense qu'une société multiculturelle, multiculturelle, religieuse, ethnique, est en quelque sorte à terme une société qui risque de devenir multiconflictuelle. Et on peut s'apercevoir... depuis quelques années déjà que ce type de situation est de plus en plus apparente et qu'elle, elle a même tendance à émouvoir des personnes qui s'inscrivaient totalement en faux là-dessus.
Alors, même si, faisons attention, parce que c'est aussi le jeu des minorités actives, hein, de parfois jeter de l'huile sur le feu, comme on dit, et que pour beaucoup de nos compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont noirs, qui sont arabes, qui sont musulmans, qui sont juifs, etc., tout ça se passe bien, et même très bien, et l'assimilation a fonctionné, tout en gardant, pourquoi pas, une part de son identité. Mais disons-le, on connaît tous beaucoup d'éléments dans les rédactions, mais pas que, dans les services publics, dans tous les domaines, dans les arts, etc., où l'assimilation a fonctionné. Faut le dire et le redire.
Oui, mais lorsqu'il y a, par exemple, un fait divers ou un fait historique, on peut s'apercevoir que malgré ce lissage dont vous parlez, les appartenants à ces dites communautés, quelles qu'elles soient, se raidissent, ont tendance à se rapprocher de leur, entre guillemets, si je puis me permettre, de leurs origines.
Mais ça dépend des générations.
Ouais, ben
le paradoxe, c'est que les plus jeunes,
les générations récentes, c'est celles donc la France de demain, elles ont tendance à être beaucoup plus dans ce type de crispation.
Écoutez,
si vous me permettez, au-delà de ces quelques propos, je voudrais simplement faire une parenthèse parce que c'est vrai que j'essaie souvent aussi de vous joindre. Mais aujourd'hui, on voit par exemple, pour revenir justement, c'est quand même dans le cadre de nos propos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis
quelque temps, lorsqu'on assiste à des débats historiques, des débats qui relatent des faits anciens, liés à l'Antiquité ou proches de celle-ci, vous avez des fois des journalistes ou des historiens sur des plateaux, ou même à la radio, qu'ils soient des plateaux télé ou de radio, qui parlent des faits historiques. Alors, en les datant, alors ils disent non plus avant ou après Jésus-Christ, mais maintenant on dit avant ou après notre ère, voyez-vous. Tout cela, c'est encore une fois de plus un lissage qui se fait pour ne pas déplaire. Ah oui,
j'avais pas remarqué, mais maintenant, je vous jure, je vais faire attention. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Je vois que l'ami Laurent Tessier se prépare parce que ça va être, je pense, le débrief, donc dans quelques secondes, et je crains que nous n'ayons pas le temps de prendre Théo.
Et non, en effet.
Hein, donc l'ami Laurent Tessier va rentrer dans le studio.
Il finalise.
Il finalise.
Car jusqu'au bout, il écoute l'émission.
Et oui, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas se moquer des personnes qui n'avaient pas de cheveux. Et il y a risque, évidemment, avec la culture woke, de les blesser.
Il a ne pas venir. Hein.
Bah, bien sûr, bien sûr. Amis,
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Chers amis, aujourd'hui,
c'est lundi.
Avec de belles questions, la France peut-elle échapper à un confinement strict? Emmanuel Macron doit-il écouter les médecins? Bernard n'imagine pas une seule seconde cette solution.
Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que le reconfinement améliorera la situation. Parce que on a quand même les gestes barrières, on a eu des gens vaccinés, on a plein de choses. Et finalement, fort est de constater que ça continue quand même. Je pense qu'il faut essayer de tenir.
Et Nathalie ne porterait pas cette mesure dans son cœur.
Mais quel constat d'échec, un an après, d'en arriver à ce qu'on risque de subir la même chose qu'il y a pile un an, quoi.
Bah écoutez,
c'est un constat d'échec politique et même pour les médecins, finalement.
Mais Pascal, vous aviez surtout envie de parler d'autres sujets.
J'ai deux choses dont on pourrait parler, quand même. On pourrait parler du temps.
On vient à la maison, il y a le printemps.
Une raison explique ce sujet.
C'est la journée la plus chaude de l'année, si j'ai bien compris.
Oui, mais sinon, de quoi aurions-nous pu parler aujourd'hui?
Et la deuxième chose, est-ce que ça a été dur ce matin? Parce que c'est l'heure d'été.
Ah, le changement d'heure.
Ah oui, non mais on a...
Ça a été difficile pour vous?
Ah oui, non mais comme tous les gens qui se lèvent tôt, c'est du jet lag.
Et dans l'émission, il y a toujours un instant culture générale.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Pas les noirs moutins, précisément.
Pas les noirs moutins, les noirs moutrins.
Les noirs moutrins.
Oh là, on va créer une polémique.
Et puis n'écrivez jamais noirs moutiers avec un S, ce qui est horripilant.
C'est bien noté, Pascal. Et un autre instant, famille avec notre réalisateur Greg Caranoni.
Ma mère et ma sœur sont également sur une plage dans le sud de la France.
Tant mieux si, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des nouvelles de votre famille à faire passer à l'antenne.
Alors justement, faisons un point plage. Votre mère et votre sœur sont-elles toujours sur la plage, Greg?
Puisque vous me demandez, oui, elles sont en train de manger un jambon beurre.
Eh bien,
on déjeune, on mange pas.
Oh, la punchline. Merci, Greg Caranoni. Sinon, Pascal, qui est avec vous aujourd'hui dans le studio?
Laurence Tessier.
Laurence Tessier.
Laurence Tessier, oui. C'est...
Laurence Tessier, franchement.
Quelle indignité.
Ah, oui. Et selon un tabloïd britannique, le prince William, on l'a dit, a été nommé chauve le plus sexy de la planète. Résultat d'un moteur de recherche Google qui montrait que le prince avait eu droit au qualificatif sexy au moins 17 millions de fois. Mais peut-on se moquer des chauves?
Je vais me moquer par exemple des chauves. Attention. Là,
vous tombez bien, je suis chauve, Pascal.
Eh ouais, quelle idée tout de même de se moquer de nous, les chauves, franchement.
Dans quel monde vit-on?
Mais oui, je vous le demande. Un dernier mot, Pascal, avant d'aller faire une petite sieste. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson d'après Covid.
Je ne connais pas cette chanson, c'est qui?
C'est
Céline Dion. Ah, Céline Dion, oui, j'avais pas reconnu. Ah, mais... Flavie danse.
Je ne connais pas Céline Dion.
Ah oui. Bah moi je connais Flavie et elle danse. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.